problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là, j'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Timothée Mémon.
22h03, pardon, c'est l'after, c'est jusqu'à minuit. On va parler de Coupe de France dans leur avenir. On fera également un point sur le Mercato Show avec Valentin Jamin. N'hésitez pas à nous appeler le 32-16 pour jouer avec nous dans le dernier quart d'heure de cette émission. Ce sera le quiz de l'after. On a... C'est quoi, un coup de gueule, un cri de cœur?
Non, c'est juste parce qu'on m'a beaucoup demandé. En fait, j'ai eu un petit problème technique, mais là, le dernier podcast où on a fait de RMC Fighter Club, on a fait exactement la même chose, le bilan de la décennie, avec Brahim, Asloum, il est revenu. Donc, on me disait, ouais, ça marche pas ton truc, machin et tout, on a fait remonter, et là, il est redisponible depuis ce matin.
N'hésitez pas, les différents podcasts d'RMC, il y en a plusieurs sur la Saint-Etienne qui sont brillants.
Ouais. T'es dedans ou pas au moins?
Je suis dedans,
numéro tous les deux, pour placer vos trucs, vous êtes forts.
Faites une émission de la décennie.
On va parler de la
RMC Fighter Club et l'émission de la décennie.
On va parler de la Coupe de France. Avant de parler de Coupe de France, Damien, t'en as discuté de ces matchs de Coupe de France. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier? Le grand public voit vraiment ces matchs-là avec un œil spécial. Il y a toujours, c'est très français, ce côté de vouloir être pour le
très
petit.
Très français, ouais. Exactement. Déjà, faut savoir que le premier tour, là, qui arrive au mois de janvier, je pense que pour les joueurs professionnels, c'est le tour c'est le horrible. Plus chiant à jouer. Oui, voilà, parce que du coup, tu rentres de vacances avant aux alentours du 27-28 pour préparer ce match qui a lieu le 3 ou le 4. C'est vrai que t'as pas envie de jouer. Tu vas jouer sur un terrain champêtre et au niveau de la motivation, c'est vrai que c'est pas simple à gérer pour les professionnels.
Elle est pourtant belle cette coupe.
Elle est belle
quand t'es au bout.
Oui, mais elle est belle à partir des 8e de finale quand t'es professionnel en soi, ou 16e éventuellement, et que t'as des matchs intéressants à jouer avant. Voilà, on va pas se voiler la face, on va masquer, on va tomber les masques. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus chiant à jouer pour les pros.
Messieurs,
moins chiant que la Coupe de la Ligue.
Ouais, on va plus en parler pendant très longtemps de la Coupe de la Ligue. C'est l'avantage.
C'est
réglé. Messieurs, on est avec Michael Bertoncetti. Il est le président de l'INAS Montlhéry ESA. L'INAS Montlhéry, pour vous situer un petit peu, messieurs, c'est le sud de Paris. C'est pas très loin de Corbeil-Essonne. Et surtout l'équipe qui va accueillir le Paris Saint-Germain. Bonsoir, président Bertoncetti.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On imagine que c'est un événement absolument fabuleux pour votre club.
Oui, bien entendu, hein. C'est un événement, bon, c'est une vraie parenthèse enchantée. Je dirais même qu'il y a beaucoup plus que ça. C'est quelque chose d'extraordinaire pour les joueurs, pour le staff, pour aussi tous les bénévoles d'une ville qui se battent depuis pas mal d'années. C'est une belle récompense et on espère qu'on arrivera à faire quelque chose de sympa le 5, c'est-à-dire une belle fête avec tous les Parisiens, parce que bon, beaucoup de supporters chez nous, beaucoup de joueurs chez nous sont supporters parisiens. Donc pouvoir fouler la pelouse de bon douche avec leur idole, c'est super.
On rappelle que vous êtes au niveau de la 6e division nationale. Le match aura lieu le dimanche 5 à 21h55, c'est au stade Bobin.
Exactement, oui, c'est au stade Bobin à Bondoufle, donc un stade qui peut contenir à peu près 15 000 personnes. On avait une capacité de 18 000, on a une autorisation par le département de 15 000 places pour des raisons de sécurité. Donc le match sera à guichet fermé. On
20h55. Donc une petite question, tiens, est-ce que l'on n'a pas peur en tant que président que l'événement soit justement trop grand? Parce que là, on parle pas d'accueillir même un grand Ligue 1, même Lyon, Monaco. On parle d'un énorme d'Europe avec des stars, avec des besoins de sécurité. On imagine qu'ils vont avec. Est-ce qu'on n'a pas peur que ce soit trop grand pour un club comme le vôtre?
Alors bon, c'est déjà trop grand au niveau de l'organisation. On a été énormément aidé par le département qui nous a beaucoup épaulé déjà à ce niveau-là. Au niveau de la sécurité, c'est le département qui prend quasi la totalité de la sécurité en charge. Donc pour nous, c'est déjà un poids énorme parce qu'une structure comme la nôtre ne pourrait pas accueillir ce genre de rencontre. Hein. C'est complètement impossible sans soutien du département. Aujourd'hui, on serait incapable d'organiser ce genre d'événement.
Comment sont vos joueurs? On sait que, petite indiscrétion, que vous étiez sur le terrain avec eux il n'y a pas très longtemps, je crois.
Oui, on est encore trempé là.
Encore trempé, effectivement, sortait ouais. De la séance d'entraînement. On imagine qu'il y a une excitation particulière, que les blessés de longue date vont mieux, des choses comme ça.
Ah bah là, on n'a pas de blessés du tout.
Ah, c'est bizarre ça.
Effectivement, on a tout le monde en pleine forme et puis les joueurs sont très joyeux, heureux de se retrouver. Hein. Et je dirais même que la semaine qu'on leur a laissée a dû être longue pour eux parce qu'on les a vus tous arriver avec le sourire ce soir. Voilà, c'est pour eux, c'est le match d'une vie. Pour le club aussi, hein, je pense que on n'est pas prêt de se retrouver sur les prochaines années en 32e de finale et en plus contre le Paris Saint-Germain. Et puis c'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Je pense que c'est l'équipe qui sur les 30 ou 40 dernières années, je pense que c'est la en termes de stars, c'est la plus grande équipe française. Et voilà, aujourd'hui c'est plus un match de gala qu'un vrai match de football. Pour nous, voilà, c'était vraiment inespéré de pouvoir se confronter à ce genre de joueurs. Alors, je peux comprendre que pour eux, ça soit loin d'être le match de l'année, hein, bien entendu. Hein, je pense même que pour les joueurs du PSG, ça doit être plus un match encombrant qu'autre chose. Mais bon, pour nous, voilà, c'est une vraie fête. On espère que on sera respecté et voilà.
Michael Bertrand, c'est-il le président de l'INAS Montlhéry qui accueillera en Coupe de France le dimanche 5 à 20h55 au Stade Bobin. Le Paris Saint-Germain est avec nous. Une question de ouais. Jonathan McCarty.
Bonsoir, président.
Bonsoir.
Bah, écoutez, moi, je vous entends avec beaucoup d'enthousiasme. Vous nous parlez de fêtes, d'événements, que c'est extraordinaire de recevoir le Paris Saint-Germain. Mais d'un côté, est-ce que vous y croyez pas un petit peu? Est-ce que le discours que vous tenez, c'est pas le meilleur moyen de faire que votre équipe, elle va se comporter comme une équipe de spectateurs, même si évidemment, hein, vous avez les chances sont très réduites. Alors que, et après tout, sur un match, tout est possible. Si votre équipe rentre sur le terrain comme des guerriers, mettre de l'intensité, au moins faire une belle prestation. Et vous, quelles sont vos ambitions réelles sur ce match-là? C'est juste faire la fête ou est-ce que vous avez quand même un petit espoir de les enquiquiner?
Non, les ambitions sont bien sûr de faire bonne figure. Hein. Bon, après, on est un club amateur, mais attention, on regarde quand même le football, on se déplace souvent au parc, on connaît les joueurs en face. Si cette équipe-là a décidé d'accélérer, on sait très bien que les clubs de Ligue 1 aujourd'hui ne les suivent pas. Je vois pas comment une équipe de R1 aujourd'hui pourrait le faire. Maintenant, on est compétiteur malgré tout. On essaiera de faire du mieux que possible, en sachant et en étant quand même relativement réaliste. On sait que ça sera plus que compliqué face à ces joueurs-là.
François Manardo.
Oui, président. Bonsoir. Je vous trouve aussi très réaliste. Après, vous avez des propos. Vous parlez d'un match de gala. Justement, dans l'histoire plus que centenaire de la Coupe de France. Si par miracle vous deviez passer, il n'y a jamais eu une qualification avec un tel écart de division, même sur un match, il me semble. Et on parle en plus du leader du championnat de France, qualifié pour les 8e de Ligue des Champions. Est-ce que vous redoutez ou est-ce que vous avez une crainte quant à ce que les joueurs du PSG vous respectent ou pas?
Une crainte, je ne sais pas. Honnêtement, on ne s'est pas posé vraiment cette question-là.
Je vous la pose.
Personnellement, je pense que si je me mets à la place du PSG aujourd'hui, c'est un match qui est, pour eux, qui va être un peu plus encombrant qu'autre chose. Les joueurs vont venir tout juste de vacances. Je crois qu'ils reprennent les entraînements
le 2 janvier.
Voilà, je pense que il y aura sûrement une grande partie qui ne seront pas rentrées. Et puis, je pense qu'il y aura sûrement des discussions en interne pour que certains, notamment je pense les Sud-Américains, reviennent un peu plus tard.
Exactement.
Donc voilà, je pense que ce match-là est plus encombrant. Enfin, moi je me mets à leur place. Nous, à notre niveau, par exemple, quand on joue la Coupe du département, club de R1, qui est on va dire dans le haut de la Ligue région parisienne, les matchs de Coupe de l'Essonne nous emmerdent plus qu'autre chose. Et je pense que c'est un peu ce cas de figure qu'a le PSG aujourd'hui.
Très réaliste.
Donc voilà.
Damien Perrinel.
Ouais, bonsoir président.
Bonsoir.
Est-ce que vous avez, voilà, est-ce que vous avez pas peur que vos joueurs, alors je sais que c'est que du bonus, hein, mais que vos joueurs ne jouent le match avant ou qu'ils fassent évidemment un complexe d'infériorité? Voilà, est-ce que vous n'allez pas chercher peut-être aussi au bout d'un moment à désacraliser l'événement? Ça reste un match de foot contre des hommes qui en dehors du terrain ne valent pas mieux humainement que vos joueurs. Tout à l'heure vous parlez d'un match d'une vie. Ouais, bien sûr, mais si on aborde ça comme ça, on risque d'être un peu tétanisé justement.
Bien sûr. Après, le problème, c'est ça va être de gérer les émotions. J'ai des joueurs qui sont habitués à jouer devant 200 spectateurs, maintenant devant 15 000. Déjà, ça, c'est le premier point. Et c'est une interrogation qu'on a avec Stéphane, le coach. On se demande l'attitude que les joueurs vont avoir face à un nombre de personnes qui est quand même assez important. En plus de ça, face à leurs, on va dire entre guillemets, leurs idoles, hein, parce que c'est, je vous dis, hein, sur les 11 titulaires, je crois que les 11 sont derrière le PSG la semaine, toute la semaine. Et ah, excusez-moi, on est en train de me parler en même temps. Je suis désolé. Non, mais c'est vrai que voilà, on a vraiment une grosse interrogation sur la gestion des émotions.
Qu'est-ce qui pourrait les désinhiber?
Le tour à la buvette avant le match.
Regardez Spartacus ou Gladiateur dans les vestiaires.
Ça reste un match de coupe. Malgré tout, je pense qu'il faut pas calculer. Il faut se livrer. On leur dit souvent que il faut jouer, ne pas calculer pour éviter d'avoir des regrets par la suite. Bon, je pense qu'il faudra quand même rester organisé, rester structuré, parce que sinon, on pourrait vite arriver à une débâcle et en prendre rapidement un wagon. Donc voilà, il va falloir gérer les émotions. On va être là aussi à leur côté pour essayer de les aider à ce niveau-là. Et puis voilà, de rester, comme vous l'avez dit, structuré dans ce qu'ils vont faire.
On peut parler du président un peu de votre parcours. Vous êtes en Coupe de France depuis combien de temps?
C'est six mois.
Vous avez commencé quand?
On a commencé les premiers tours la saison dernière, au mois de juin.
Au mois de juin, vous vous rendez compte?
Ouais. On n'a pas eu un week-end d'arrêt là.
Président, vous savez que si vous avez une chance, il faut que vos joueurs la jouent à fond, et c'est qu'ils rentrent sur le terrain comme des chiens de la casse, quoi. De les agresser, de pourrir un petit peu le match dans les limites du raisonnable, et d'avoir une mentalité de spartiate là sur le terrain.
Toi,
et
moi, je suis désolé.
Non mais président,
c'est le problème, c'est que
tu veux qu'ils finissent le match.
Voilà, je suis un peu critique peut-être, président, mais quand je vous entends votre discours, bon bah c'est plus la fête, et puis on va se faire des bisous et changer le maillot à la fin du match.
Si par la pleure au fusil, on va dire bon bah.
Quand même, pas la fusil, justement, avec le fusil bien chargé, quoi.
Non, pas du tout. On n'ira pas du tout en leur faisant la bise. On jouera le match comme on a l'habitude de les jouer, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des compétiteurs malgré tout. Bien évidemment, on restera avec le respect qu'on doit avoir pour les adversaires, mais bien entendu que on va se livrer dans la bataille et qu'on essaiera de faire au mieux. Ça, c'est évident.
Il va falloir, président, motiver tous les échelons de votre club, les joueurs, mais aussi votre entraîneur, parce que votre entraîneur est un fanat du Paris Saint-Germain. Je crois que son chat s'appelle Zlatan.
Ouais, Steph est supporter du PSG depuis pas mal d'années, ouais.
T'imagines.
Ça aide pas.
Mais t'as besoin de motiver personne, hein, surtout. Quand tu
sur ce genre de match, ouais. Honnêtement.
Qui t'as besoin de motiver?
Ouais, sur ce genre de match, on n'a pas besoin de pousser la machine pour que les mecs soient gonflés à bloc. Quand on a été footballeur, je pense qu'on le sait déjà. Bon, même si on va faire le boulot correctement, nous, pour les monter au max, mais honnêtement, il n'y aura pas besoin de faire grand chose pour qu'ils soient gonflés, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Michael Bertoncetti, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes
président
de l'INAS Montlhéry ESA. Et on rappelle que pour l'INAS, la fête, ce sera le dimanche 5 à 20h55, la réception au stade Bobin du Paris Saint-Germain en Coupe de France. Merci beaucoup d'avoir été.
Je vous passe le coach ou...
Allez, tiens, pourquoi pas. On va vous donner un petit peu la parole au coach Stéphane Cabrelli. Stéphane. Hello. Ouais, bonsoir Stéphane, c'est l'after. Merci d'être avec nous. On a pas mal fait le tour avec le président. D'abord, racontez-nous cette histoire. Votre chat s'appelle Zlatan. C'est pas un peu une drôle d'idée?
On donne toujours un prénom à son animal domestique. Donc,
le mien s'appelle Zlatan, encore.
En tant que supporter du PSG, je suis pas allé chercher bien loin.
Le mien s'appelle Véronique.
C'était le deal avec ma femme, en fait.
D'accord. Comment vous les sentez là, vos joueurs? Vous les sentez? On a compris avec toutes les circonvolutions oratoires d'usage, on va respecter l'adversaire. Vous les sentez capables de faire quelque chose, vos joueurs?
on va rester les pieds sur terre, c'est le PSG. Hein. Quand ils accélèrent, ils mettent 4 ou 5 buts à peu près à qui ils veulent. Donc, non, je dirais notre objectif, c'est de donner une bonne image de notre équipe, de notre club, du football amateur, on va dire la régionale parisienne. C'est ça notre objectif, sans être prétentieux ou rêveur. Je pense qu'il faut, je répète, on sait qui, à qui on a affaire en face. Donc, c'est vraiment donner une bonne image de notre équipe. Après, on verra ce qu'on est capable de faire par rapport à l'opposition. Mais je pense qu'avant tout, c'est vraiment donner une bonne image de notre équipe, du club et du football amateur.
Coach, oui, avant tout, c'est donner une bonne image. Mais il y a quand même un match à préparer. Est-ce que vous allez changer quelque chose un petit peu dans votre routine?
Bah, forcément, il y a plein de choses.
Alors, qu'est-ce que vous allez changer?
Déjà, on a changé la date de la reprise. Ça, c'est la première chose. Parce que normalement, à cette heure-ci, on est encore gentiment à la maison. Donc là, la reprise, on multiplie les séances. On ne maîtrise pas, mais tout l'aspect médiatique forcément qui entoure cette rencontre. On va parler tactiquement par rapport au PSG, comment ils jouent, même si on a l'habitude de les voir jouer. Donc on va regarder ça de plus près à partir de la semaine prochaine. Mais c'est surtout là la reprise de l'entraînement qui est beaucoup plus tôt et le nombre de séances que l'on fait. Il y aura la mise au vert avant le match aussi. Voilà, il y a plein de choses qui changent.
Bah, les cramez pas quand même. Hein.
Non, mais de toute façon, je dirais on pourra s'entraîner 8 fois par jour. Physiquement, on sera pas assez au point, je dirais, pour tenir 90 minutes contre cette équipe. Non, on prépare aussi la deuxième partie de saison de championnat, parce que pour nous, c'est le plus important. Voilà, on essaye de faire un mix entre la préparation de ce match-là, bien évidemment, qui est important pour nous et pour plein de choses, et puis pour le reste de la saison, qui est aussi très important pour le club.
Stéphane Cabrelli, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle que Lina Smolleri affrontera le Paris Saint-Germain lors du prochain tour de Coupe de France. Merci d'avoir été avec nous. On continue à dérouler dans l'after. On va continuer à parler de la Coupe de France. Tout à l'heure, il y aura le Mercato Show. Juste avant cela, on va faire un tour du côté de nos lives avec la 19e journée de Premier League, Leicester-Liverpool. Aurélien Tiersin.
28 minutes encore à jouer, 1-0 pour les Reds de Liverpool. Le but de Roberto Firmino à la 31e. Et là, c'est pas un match de Coupe d'Angleterre, mais l'écart de niveau est abyssal entre les deux équipes. Jamie Vardy, 17 buts en Premier League, a quasiment eu sa toute première occasion il y a quelques secondes. Il a été fauché à l'entrée de la surface par Joe Gomez. Le coup franc n'a rien donné. James Maddison s'est pris la tête à deux mains après avoir envoyé le ballon dans les travées du King Power Stadium. 1-0 pour Liverpool. 27 minutes encore à jouer.
C'est vrai que Liverpool pourrait mener plus largement. Basket, 16e journée d'Euroleague. Asvel, Khimki avec Jérémy Danger.
On croyait que c'était joué pour l'Asvel, mais c'est beaucoup plus serré qu'il n'y paraît. 82-77, 5 points d'avance désormais pour l'Asvel. Il reste 4 minutes à jouer dans cette rencontre. L'Asvel qui a encaissé un 16-4 série en cours. L'Asvel qui a compté jusqu'à 17 points d'avance. Faites les comptes, il n'en reste plus que 5 désormais. 82-77 à 4 minutes de la fin de cette rencontre.
Merci beaucoup. On revient dans un instant dans l'after. On continue de parler de la Coupe de France, du Mercato. On parlera également de la Premier League, notamment ce match entre Leicester et Liverpool. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. Timothée Mémon.
22h22, faites un vœu, on est ensemble pour l'after jusqu'à minuit. On va continuer à parler de la Coupe de France, on parlera du Mercato Show avec Valentin Jamin dans une vingtaine de minutes. On reviendra également sur la Première Ligue à partir de 23h. Le quiz de l'after, vous nous appelez pour participer avec notre équipe de choc. On est avec François Manardo, Damien Perrinel et Jonathan Macardy. On continue à parler de la Coupe de France. En effet, on parlait tout à l'heure de Linas Montlhéry, un club de Régional 1 qui va affronter le Paris Saint-Germain, un club de Première Division. Ce n'est pas le seul, il y a d'autres club dans ce cas-là et on a un invité.
T'as un autre club?
Attention,
tu connais
qui joue
la coupe?
Il joue la coupe là?
Ouais, je sais pas.
Aucune idée.
Bah, c'est pas. Alors invité pas, mystère, c'est pas invité mystère.
Ça dit quelque chose cette musique?
Non, c'est un salopard Damien.
On est avec notre invité mystère. Bonsoir. Essayez de faire deviner, tiens, à Damien Perrinel, d'où vous pourriez le connaître.
On s'est croisé une année complète, on a joué ensemble, enfin il a joué avec moi pour être plus précis, du côté de Boulogne-sur-Mer.
Ouais.
Il a essayé de faire croire à tout le monde qu'il courait vite.
Alors tu sais quoi, T'arrêtes tout de suite ton histoire.
Tu sais qui c'est, Damien, là?
Parce que je crois que t'es le seul attaquant que j'ai pris de vitesse de ma vie, quand même.
Alors, jamais de la vie.
Vincent Héouman est l'entraîneur du Stade Portelois qui affrontera Strasbourg en Coupe de France lors du week-end prochain.
Ça va, mon Vince. Ça va très bien. Très content de t'avoir au téléphone.
Je suis ravi, ça fait plaisir. Je t'écoute souvent sur tes différentes émissions. Et puis voilà, ça. Bon. Je suis pas surpris parce que le gars sait parler, le gars est beau gosse, donc forcément ça allait s'ouvrir comme ça.
Ouais, bah, tu sais un truc, moi je suis surpris que tu sois coach. Non, je plaisante.
Ça y est, ça commence. Et moi j'ai appelé. Je
vais
m'obliger à sortir
un écran dossier. C'est bizarre, je sais que ça va sortir d'ici pas longtemps, le tché. Donc,
c'est une obligation.
Non, c'est peut-être le moment maintenant, vous en avez trop dit, non?
Ouais, bon, j'en ai trop. Vous avez combien de temps devant vous, là?
Jusqu'à minuit. On fait une spéciale Damien Périnel jusqu'à minuit.
Non, parce qu'on était tous surpris de voir arriver Damien. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, beau gosse, il présente bien, etc. Et on ne comprenait pas pourquoi, même les joueurs les plus lents de la Terre allaient tous plus vite que lui. C'était incroyable. Donc nous, on avait besoin de se renforcer au poste de défenseur central. Et ils nous ont mis un bonhomme avec une charrette incroyable. Bon. Non, trêve de plaisanterie. Je l'ai croisé à Boulogne. Et il est arrivé pour nous donner un coup de main. Et tout de suite, on a réussi à atteindre nos objectifs. On est monté de National en Ligue 2 avec lui. Et ouais, ça fait partie des super moments que j'ai pu vivre dans ma petite carrière de footballeur.
Vincent Héouman, merci beaucoup. Vous n'êtes pas seulement là parce que vous êtes le pote de Damien Périnel, vous êtes surtout le Stade Portelois affrontera Strasbourg. Il y a un aspect, on a beaucoup parlé là avec le président de l'INAS Montlhéry, on a parlé organisation. Il y a un aspect humain, presque physiologique que j'avais envie de vous demander. Est-ce qu'on peut demander à des joueurs amateurs sur une période de fête comme ça, de faire attention et de se préparer pour un match comme celui que vous allez jouer contre Strasbourg? Est-ce que c'est...
On peut et puis on doit, parce que c'est pour leur bien, c'est pour notre bien à nous. Certains d'entre eux n'ont jamais eu la chance, l'occasion de se frotter au club de l'élite. Peut-être certains n'auront jamais d'autres chances de le faire. Donc si pendant ces fêtes, ils ne sont pas capables de faire un petit peu attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent, à leur sommeil, etc. Et ben, si ils n'ont rien compris au film. Mais je suis tranquille là-dessus. Moi, je sais que mes garçons... on a d'y être, on a très envie de montrer qu'eux aussi ont de la qualité, donc je suis convaincu qu'ils ont respecté ce que je leur ai demandé à la lettre.
Et du coup, vous jouez où le match
Ça va jouer au stade de l'Épopée.
Ah ok, d'accord, à Calais.
Voilà, à Calais, c'est à une petite trentaine de minutes de chez nous. Il y avait la possibilité de jouer au stade de la Libération, au stade qu'on a bien connu tous les deux. Et puis voilà, pour diverses raisons...
Le stade de tes exploits. Ah non, excuse-moi, c'est Bollard, le stade de tes exploits.
Ça c'est autre chose. Et donc on va jouer à l'Épopée, on est très contents, c'est un superbe stade, un petit peu à l'anglaise, à fermer, où tous les spectateurs qui vont venir au match seront bien installés, vont se régaler, parce que nous on va essayer aussi de leur proposer des choses sur le terrain, donc on a hâte d'y être.
Vincent Héouman, vous êtes le coach du stade Portelois. Vous parliez de stade à l'anglaise à l'instant. Permettez-nous de faire une toute petite parenthèse du côté de la Première Ligue. Leicester Liverpool, Aurélien Tiercin, Soyuncu a-t-il commis l'irréparable?
Ah, ça m'arrange que tu le prononces comme ça, Timothée, parce que j'avais peur de le prononcer. Soyuncu, le défenseur turc, a fait une main dans la surface de réparation. 20 minutes encore à jouer, Liverpool qui mène déjà 1-0. Et donc ce serait un penalty, l'occasion de faire le break définitif probablement pour les Reds de Liverpool. Et c'est James Milner qui est rentré il y a quelques minutes à la place de Naby Keita au milieu de terrain côté Liverpool, qui se présente face à Kasper Schmeichel dans ce Kings Power Stadium. Le premier Liverpool contre le deuxième Leicester, 10 points d'avance déjà pour les Reds de Liverpool. S'ils s'imposent ici, ce sera un énorme pas fait pour conquérir un titre de champion d'Angleterre. Milner face à Schmeichel, le petit ballon au milieu, c'est le but parfait pour James Milner. 2-0 pour Liverpool face à Leicester qui n'existe pas. 19 minutes encore à jouer, 2-0 pour les Reds.
Merci beaucoup Aurélien. On revient avec Vincent Héouman, qui est le coach du stade Portelois, qui va recevoir Strasbourg. Il va y avoir un duel de coach aussi, vous le savez, hein, coaché à quelques mètres de Thierry Loret. C'est un truc à part entière, vous le savez.
Ouais, bah, il paraît. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Et c'est génial parce que moi, je fais ce métier-là. Je tout doucement depuis 2 ans maintenant que je suis coach principal pour pouvoir me frotter à à des coachs plus expérimentés. Donc voilà, ça va être une belle première expérience pour moi.
Une belle expérience, effectivement, on s'en doute. Les joueurs, on en parlait avec le président de Nias Montlhéry, là on imagine que les blessures, les bobos, tout ça disparaît, tout le monde a envie de jouer. Vous avez un groupe complet qui cravache pour avoir sa place?
Ouais, complètement. Voilà, j'ai un groupe qui va être dans la grande majorité présent. J'ai malheureusement deux garçons qui pourront pas participer à la fête dû à des suspensions au tour précédent. Donc Théo Delpierre et Maxence Rochois, on aura forcément une pensée pour eux. Et voilà, on va se servir de ça aussi comme motivation pour essayer, hein, humblement, de malgré tout, de créer l'exploit pour leur permettre à leur tour de jouer un autre tour de Coupe de France. Mais bon, ça va être forcément une mission très compliquée, mais l'espoir c'est vivre.
Une question de votre ancien coéquipier boulonnais, Damien Perinel.
Ouais Vince, donc du coup vu que je te connais dans le vestiaire, t'avais cette facilité à détendre l'atmosphère, à relativiser les choses, surtout avant les matchs où t'aimais bien te marrer. Et je voulais savoir si en tant que coach, t'es toujours dans cette optique de, comme je disais au coach de Lina Montlhéry, de désacraliser un peu le match, l'événement, pour leur permettre de pas se prendre la tête avant l'échéance.
Ouais, ça fait un peu partie de ma personnalité. Maintenant, c'est sûr que ça va être un événement pour nous, pour les joueurs, pour le club, etc. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ça reste un match de foot. C'est une pure partie de plaisir. On a tous pris des licences à 5-6 ans pour jouer au foot dans des petits stades pleins. Et une fois qu'on en a l'occasion, et ben, faut pas se casser la tête. Ça reste un match. On va s'amuser, on va tout donner, on va essayer de transpirer ensemble, de faire les efforts ensemble pour essayer de poser des problèmes à cette équipe de Strasbourg. Et j'ai vraiment envie que mes joueurs profitent du moment, qu'ils le vivent vraiment, et pour pas qu'ils regrettent après, parce qu'une fois que c'est passé, c'est passé. Donc il va falloir qu'ils soient détendus, trouver d'équilibre entre le côté détendu et le côté concentré. C'est ça qui est le plus compliqué.
C'est pas de la danse classique quand même, je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Vous êtes prêt au défi physique des Strasbourgeois? Vous allez être dans la position de l'équipe de niveau moindre, inférieur en tout cas, comme le Strasbourg. On se souvient de cette sortie de Thierry Loret face au Paris Saint-Germain. Vous êtes prêt à poser, vous, le défi physique, à aller essayer d'impressionner cette équipe strasbourgeoise?
Sans ça, on n'y arrivera pas, parce que j'ai énormément d'estime et de respect pour mes joueurs, mais les garçons qu'on va affronter ont une qualité technique supérieure à la nôtre, même si on travaille tous les jours pour essayer de combler ce petit écart. Mais sans engagement, sans défi physique, il y aura trop d'écart entre nous et Strasbourg. Donc si on passe à côté de ça, on passera à côté de notre match. Donc ça va pas être simple pour Strasbourg, parce que nous on va tout donner, on va s'arracher sur chaque ballon, il y aura tous les supporters et tous les gens qui nous soutiennent, qui seront derrière nous. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, sans ça, on n'y arrivera pas. Donc forcément, il faut que Strasbourg soit prêt à encaisser ce qu'on va leur proposer.
Vincent Hémouman, vous êtes l'entraîneur du Stade Portelois qui affrontera le 4 janvier à 15h au Stade de l'Épopée à Calais, l'équipe de Strasbourg. Une dernière question quant à la pression qu'il pourrait y avoir sur votre groupe, parce qu'on imagine qu'il y a des bénévoles pour qui c'est peut-être le match d'une vie, qu'il y a toute une organisation dans le club, et que tous ces gens-là, sans le vouloir peut-être, mettent un peu de pression à vos jeunes joueurs.
Oui, c'est pas complètement faux. C'est la troisième fois que le Stade Portelois a la chance de se hisser au niveau des 32e. Je vais essayer de faire en sorte que pour la première fois on aille en 16e. Ce serait magique. Effectivement, il y a tous les anciens qui sont à fond derrière nous, qui ont envie qu'on réussisse. Mais non, c'est pas une pression, c'est une motivation supplémentaire. On a envie de leur faire plaisir. On est un club dans lequel on arrive à travailler sereinement. Le président nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Voilà, tout est réuni pour continuer d'avancer tranquillement. Non, il n'y a pas de pression, il y a une grande attente, une vraie motivation. Mais voilà, Damien l'a souligné tout à l'heure, j'essaie d'être le plus détendu possible, d'être le plus décontracté possible. C'est lié certainement à mon parcours un peu particulier. Il n'y a pas eu de centre de formation, il n'y a pas eu tout ça. Donc moi, le foot, c'est une vraie passion, un vrai jeu. Et j'ai très envie que mes joueurs s'inspirent un petit peu de tout ça, et que avec leur qualité et avec leur personnalité montrent que eux aussi ce sont des vrais bons joueurs. Et puis on va vivre le moment, on va faire en sorte d'essayer de se qualifier et de passer en 16e, ce serait génial.
Vincent Hémouman, ancien coéquipier de Damien Perinel à Boulogne, on a un petit quelque chose pour vous, une sucrerie.
Il va falloir qu'il bosse. Je suis content là, Philippe, il a déjà convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça serait demain matin à 6h, et c'est honteux ce que j'ai le jour. Je me réserve parce que je vais exploser.
Vous vous souvenez de cette sortie de votre président, le président Ouattès, président de Boulogne?
Forcément, et puis il y en a d'autres. Hein. Le président Ouattès était un vrai personnage, quelqu'un avec beaucoup de charisme, qui avec sa carrure qui impressionnait, et qui, dès qu'il rentrait dans le vestiaire, voilà, les joueurs avec leur grande gueule ne faisaient franchement pas les malins. Donc oui, on s'en rappelle forcément.
Super club extrêmement familial que celui de Boulogne. On vous souhaite le meilleur, mon cher Vincent Hémouman, avec cette formation du stade Portelois. On rappelle le match, ce sera le 4 janvier à 15h au stade de l'Épopée. Damien, pour la conclusion.
Une dernière chose, Vince, tu fais toujours la Coupe du Couillon à la fin d'entraînement.
Forcément,
tu la gagnes cette fois-ci parce que tu la gagnais pas souvent. Enfin, si,
c'est quoi la Coupe du Couillon,
justement.
C'est quoi la Coupe du Couillon
en dernier?
Hein, en fait, pour aller vite, voilà, c'est un petit truc ludique à la fin pour on attribuait au dernier à marquer son coup franc un petit maillot bien dégueulasse pour lui faire comprendre que voilà, c'était aujourd'hui le plus mauvais de l'équipe, et on l'appelait le couillon. Et voilà,
aujourd'hui, les maillots du Portel, ce sont justement les maillots que Vincent a gagnés à cette époque-là.
les nombreux maillots gagnés. Merci beaucoup.
Voilà, ben merci beaucoup. Merci
à vous,
Vince.
Bonne continuation à tous.
Merci courage. Vincent Hémouman, l'entraîneur du stade Portelois. Il se passe des choses sur nos différents directs. On va commencer avec le basket, 16e journée d'Euroleague. Asvel, Kimki, Jérémy Danzé.
Ouais, pas de match à gros suspense ici à l'Astrobal. 2 points d'avance pour l'Asvel. 90-88. Il reste 9 secondes 6 à jouer. Mais c'est un joueur du Kimki Moscou, Kramer, qui est sur la ligne des lancers francs. 2 lancers francs à suivre. Le premier est raté sous les sifflets et les applaudissements finalement de l'Astrobal. Évidemment, puisqu'il restera 9 secondes à jouer avec une remise en jeu du côté de l'Asvel. Il reste un lancer franc côté moscovite. Le Kimki Moscou qui a compté jusqu'à 17 points de retard. L'Asvel qui joue à ce perpeur, qui joue avec le feu dans cette rencontre. Et ça va se jouer à un coup de dé. On va voir de quel côté la pièce va retomber d'ici quelques instants. Mais en tout cas, l'Asvel pourrait décrocher sa 8e victoire en 16 matchs dans cette Euroleague. Le 2e lancer franc est raté. Et la faute tout de suite des joueurs de Kimki Moscou. 8 secondes, 1 à jouer, 90-88. Il y aura 2 lancers francs à suivre pour David Laïti, le meilleur marqueur côté Villeurbanne, avec 18 points pour l'Amérique.
On vient valider avec toi le résultat de cette rencontre dans quelques instants. Jérémy, le temps pour nous de faire un tour au King Power Stadium en Première Ligue. Leicester-Liverpool, ce n'est pas un, mais 2 buts qui ont été inscrits.
Puissance, sérénité phénoménale. Liverpool 4-0 désormais pour les Reds à 11 minutes de la fin du temps réglementaire. Firmino avait marqué le but du 3-0 après un super travail de Trent Alexander-Arnold sur le côté droit à la 74e et à la 78e. Un décalage de Mané sur Trent Alexander-Arnold qui est encore une fois énormissime à son poste d'arrière droit, qui frappe instantanément un tir croisé à terre qui trompe Kasper Schmeichel, et ça fait 4-0. C'est vraiment l'année de Liverpool. Bon, on ne voit pas comment ça pourrait leur échapper.
Inquiétude pour Jordan Henderson. Ouais. Hein.
Ouais, il a été touché au tendon d'Achille. C'est un coup. Hein. C'est un coup c'est sur un coup, contact avec le numéro 17, avec le milieu de Liverpool, avec Ayoze Perez. Voilà, excusez-moi.
Les gars, franchement, les 2 buts de Liverpool là, c'est des cas d'école de buts clopiens, quoi. C'est 2 récupérations très rapides, et ça se projette en contre avec une verticalité qui va à 1000 à l'heure. Surtout le but de Trent Alexander-Arnold, là, ça va en deux passes avec Mané qui remonte un petit peu la balle, bam, il décale sur le côté droit Alexander-Arnold qui met une frappe imparable. C'est vraiment du très 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 beau boulot ce soir encore. Hein.
C'est du blitz football
avec vraiment sur ce Boxing Day, on en parlera tout à l'heure. Manchester United et Liverpool qui font très forte impression, mais Liverpool ça n'est pas nouveau.
Lallana
va rentrer. Ouais, Lallana qui pourrait rentrer on attend de savoir ce qu'il en est pour Jordan Henderson. Retour du côté de l'Asvel pour le match entre l'Asvel et Kimki, Jérémy Danzé.
Ouais, ça se dessine cette victoire de l'Asvel. Il restera une possession côté moscovite. L'Asvel qui a pris 4 points d'avance avec les 2 lancers francs réussis par l'Américain David Laïti qui porte son compteur personnel à 20 points ce soir. C'est le meilleur marqueur de la rencontre. 92-88 93-88, 4 points d'avance donc pour les Villeurbanais, à 8 secondes 1 très précisément de la fin de cette rencontre. Temps mort demandé par le coach Moscovite et une remise en jeu donc pour le Khimki Moscou. Voilà, il va pas falloir faire de faute côté Villeurbanais. Espérer que le shoot à 3 points des Moscovite ne rentre pas, surtout pas faire de faute et offrir un quatrième point, un lancer franc bonus pour les joueurs du Khimki. La remise en jeu qui va intervenir d'ici quelques instants, on le rabat sous les yeux de Tony Parker qui est debout pour suivre la fin de cette rencontre à côté de son président délégué Gaëtan Müller. La remise en jeu côté Moscovite, on joue la défense de Théo Malédon, dont la défense désormais de Tony Jekiri. 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, Jonas Tima qui tire, c'est à côté, Evans le shoot aussi, la claquette, non, et voilà la victoire de l'ASVEL, la nouvelle victoire, la 8ème cette saison. Bilan équilibré, 8 victoires, 8 défaites pour l'ASVEL qui rentre dans le top 8 européen et qui rejoint le Khimki Moscou, la 8ème place de cette compétition, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et cette redécouverte de l'Euroleague pour l'ASVEL qui continue de se passer de la meilleure des façons. Il y aura la réception vendredi prochain, dans 8 jours, du Real Madrid ici pour un nouveau match de gala à l'Astrobal. L'ASVEL qui s'impose 92-88 face au Khimki Moscou.
Merci beaucoup Jérémy. On revient dans l'after dans quelques instants après cette bonne nouvelle du côté de l'ASVEL pour vous parler du Mercato Show à partir de 23h. On fait un tour en Première Ligue avec Julien Laurence. On reviendra sur Leicester Liverpool, sur Tottenham, sur les premières d'Ancelotti et d'Arteta. Et puis évidemment, on parlera également du quiz de l'after. Venez jouer avec nous au 32-16. On revient dans un instant.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Timothée Mémon.
22h42, de retour dans l'after. Dans une vingtaine de minutes, on va parler de Première Ligue, dont le suspense s'est probablement achevé ce soir avec la victoire de Liverpool, 4-0 pour le moment. C'est pas fini entre Leicester et Liverpool, mais Liverpool étant démonstration, Liverpool après cette rencontre aura 13 points d'avance sur son second, à savoir Leicester. En attendant le match demain de City qui jouera à Wolverhampton. On va avant cela et bien parler du Mercato, le Mercato Show avec Valentin Jamin qui nous a rejoint. Salut Valentin.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Salut Valentin.
Et on commence avec un Français qui pourrait rejoindre les Gunners dès cet hiver.
Et oui, le nouvel entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, veut se renforcer au milieu de terrain et selon des médias britanniques, il essaierait d'obtenir le prêt d'Adrien Rabiot pour la fin de saison. Le Français qui évolue actuellement à la Juventus Turin, il a eu un petit peu de mal à s'adapter à la Juve. Il a joué seulement 12 matchs cette saison. Est-ce que vous pensez, messieurs, que ça peut être une bonne solution pour se relancer Arsenal pour Rabiot?
En tout cas, c'est un profil de joueur qui n'ont pas à Arsenal aujourd'hui. Je pense qu'il pourrait faire du bien, apporter une touche technique au milieu de terrain. Et puis, mettre sur le côté Xhaka, même si apparemment Arteta compte sur lui. C'est ça qui me paraît un peu bizarre.
Moi, je pense que Rabiot devrait rester à la Juve parce qu'il a vécu une première partie de saison très compliquée. Mais fallait s'y attendre. Hein. Il n'a pas joué, il a fait une saison blanche quasiment l'année dernière.
Et
le temps de reprendre le rythme, le temps de se remettre dans le bain, de se réadapter à l'intensité des matchs. Non, pour moi, voilà, ça serait un petit aveu d'échec. Et je pense qu'il n'en a pas du tout besoin psychologiquement. Donc il reste à la Juve et je suis très confiant quant à sa réussite à venir sous les ordres de Mauricio Sarri.
Mais il aurait tout faux quand tu as quitté la Juve, puisque c'est un vrai défi pour lui après 6 mois sur le banc au Paris Saint-Germain. Donc il est en train doucement, mais peut-être un peu sûrement aussi, de le relever. Il n'a rien à faire et rien à gagner, surtout encore à changer de crémier.
Surtout qu'Arsenal ne vit pas ses plus belles heures en ce moment.
C'est plus un bourbier pour le moment d'aller à Arsenal. Ouais.
Moi, je serais curieux de voir la lettre qu'il écrira à Mikel Arteta. Olivier Giroud, on le sait, pourrait rejoindre l'Inter Milan, mais il a aussi des pistes en Ligue 1.
Et également aussi, l'international français, il n'a joué que 7 matchs, hein, toute compétition confondue cette saison. Ça fait 282 minutes avec Chelsea. Donc on le sait, il doit partir s'il veut jouer l'Euro cet été. Plusieurs possibilités pour l'attaquant de l'équipe de France. Lyon, qui cherche du monde devant, puisque Memphis Depay ne jouera plus cette saison. Il s'est blessé. Giroud, il est apprécié par Rudy Garcia, le coach lyonnais. Il est aussi apprécié par Jean-Michel Aulas. Il pourrait donc peut-être avoir un peu plus de visibilité parce que plus de temps de jeu à Lyon.
Mais oui, à l'Inter, il ne va pas jouer. Il va être remplaçant s'il y va. Ça sert à quoi?
Il y a Lukaku
et Lautaro, ça sert strictement à rien. Là, à Lyon, bon, après, la question, c'est de se dire, est-ce que c'est une plus-value pour Lyon? Oui, sans souci. Mais après, est-ce que la complémentarité entre Giroud et Dembélé saute aux yeux? J'ai un peu de mal à la voir.
Je pense que les deux ne jouent pas ensemble,
voilà.
Surtout.
Et je pense que Dembélé est quand même marqué 10 ou 9 buts.
Il a une petite avance.
Il est bon. ça serait un petit peu lui tirer une balle dans le pied, et surtout que tu vas avoir besoin de recruter à d'autres postes à Lyon.
Après
l'avancante, c'est pas une priorité pour
l'OL. Dembélé, là, il est quand même en perte de vitesse depuis. Alors même s'il fait figure encore parmi les meilleurs buteurs, il est en perte de vitesse Ligue des Champions, tout ça. Mais après, au-delà de ça, dans le style de jeu, si tu mets Giroud devant, faut que t'envoies des centres, faut que t'envoies tout ça.
Et t'as pas les latéraux pour envoyer les centres.
Pour l'instant, ouais.
Non mais c'est pas la priorité pour Lyon.
La question là où c'est intéressant, c'est que on disait hier que Paris, pour négocier toutes ses échéances, avait besoin de plusieurs numéros 9 et de garder Cavani. Il n'y a pas d'autres possibilités côté lyonnais. Il y a Dembélé et Dembélé en véritable numéro 9, puisque l'autre solution, c'était de faire jouer Depay en pointe.
Je trouverais plus logique d'adjoindre à Dembélé, s'ils y parviennent, à un profil comme Gamero, mais pas un Giroud. Tu vas avoir deux armoires qui vont jouer d'une manière bien similaire.
Le 4-3-3 de Garcia, tu mets une pointe.
Il faut qu'ils prennent un autre attaquant, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je pense plus à un attaquant polyvalent. Mais Olivier Giroud, lui, ce qu'il doit faire maintenant, là, ce sera un club où c'est sûr qu'il soit titulaire à 100%. Donc l'Inter, mauvaise idée. L'OL, pourquoi pas, mais t'as Moussa Dembélé, donc je pense qu'il y aura peut-être une autre piste.
Justement, il y aurait une autre possibilité en Écosse, parce que les Glasgow Rangers seraient intéressés notamment par le
club
Steven Gerrard et entraîneur.
Surtout pas dans ce club.
On sait que t'es pour le Celtic.
Quelle horreur ce club. Non,
de toute façon, t'es sûr qu'avec Giroud va marquer des buts. Enfin, oui, c'est comme ça. Même à Lyon, il marquera des buts.
Je serais très déçu s'il allait chez Rangers.
Ils font l'Europa League, les Rangers. Les Rangers, ils sont qualifiés pour les 16e avec les Celtics. On en a parlé hier, Rennes veut se renforcer devant et pense à un champion du monde.
Ousmane Dembélé, messieurs, l'attaquant du Barça, selon la presse locale, et oui, ça peut en faire rire certains, mais selon la presse locale, le Stade Rennais aimerait le faire revenir
en prêt. Les fêtes très bonnes à Rennes.
Pour le moment, il est blessé, il ne devrait revenir que fin janvier sur les pelouses. Le Stade Rennais 3e, qui rêve peut-être de Champions League. Bon, certains, déjà ça vous fait rire à ce que je vois.
C'est le 1er avril du côté de la presse rennais bretonne ou quoi?
On parle d'un prêt potentiel. Ouais, alors,
ouais. Ils ont le droit de tenter le coup, hein. Mais
quelle carrière. Oui. On parlait du petit Liadji là lundi là. Il disait que son agent faisait un peu n'importe quoi. Bon, bah c'est le même agent qu'Ousmane Dembélé.
9 matchs Ousmane Dembélé seulement. 9 matchs.
Qu'est-ce que c'est du gâchis? Comment gérer? Flinguer, enfin pas flinguer parce qu'il est jeune, il a encore le temps de se reprendre. Mais sa carrière, elle est gérée n'importe comment. Il faut que son agent, enfin il faut qu'il se débarrasse de cet agent ou que cet agent se remette la tête dans l'endroit. J'en sais rien, mais en tout cas voilà, c'est plus possible quoi. Dembélé, il est champion du monde, il a un talent qui est incroyable. Il y a un moment, faut remettre les choses à l'heure quoi.
Et puis le président du Barça a quand même les yeux de l'amour pour Ousmane Dembélé.
Les yeux de l'amour et la patience, c'est deux choses qui s'étiolent au fur et à mesure.
T'as vu le prix auquel ils l'ont payé? Il a intérêt d'avoir les yeux de l'amour s'il ne veut pas que son investissement soit lettre morte. Hein.
Après, Jonathan, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre, je pense. Si tu as un agent, quel qu'il soit, aujourd'hui, qui te fait passer de Rennes à Dortmund et qui te fait aller au Barça, c'est pas mal. Après, les méthodes de l'agent en question, moi, je m'en fous. Toi, je regarde le parcours.
Mais s'il te fait revenir à Rennes, par contre,
là, il y a ceci. En revanche, c'est à Ousmane Dembélé, au bout d'un moment, et à cet agent en question, que Ousmane doit prendre conscience de certaines exigences du haut niveau.
T'as raison, sauf que si tu passes de Rennes à Dortmund et de Dortmund à Barça, oui, ton agent est bon. Mais je pense qu'il y a un timing à respecter, surtout quand t'es un joueur de moins de 20 ans, parce qu'il y a moins de 20 ans quand il s'est barré de Rennes, quand t'es un joueur de moins de 20 ans, et je pense qu'il y a un plan de carrière à respecter et pas brûler les étapes. Après, voilà, je pense que.
On est d'accord.
Si t'as envie de faire du transfert, prendre ta com, c'est bien, mais faut penser aux joueurs aussi, quoi.
Les amis, quand on parle de plan de carrière, à un moment donné, une vraie carrière, ça passe aussi par une hygiène de vie. On l'a répété,
on
n'arrête pas de marteler ça. À un moment donné, si ça rentre pas dans la tête, soit de l'agent, soit du joueur, soit des deux, qui retourne où il veut.
Jurisprudence Souleymane
Diawara. À Rennes, il y a le Pims, il y a le Garou.
Non mais jamais.
Ça limite quand même les tentatives de sortie, quoi.
Tu connais bien, hein, mon salaud. Hein.
À Rennes, j'ai fait quelques déplacements.
Quelques déplacements ou quelques soirées?
Forcément les deux.
Il tient bien.
Un autre de frais.
Il est chaud, Pierre-Yves, ou pas?
Mec, ancienne société.
Pierre-Yves Leroux, il est comment?
Ah non, Pierre-Yves Leroux n'y est pour rien. Ne le mêle pas, ça. Le Hertha Berlin veut piocher en Ligue 1 après l'intérêt porté sur Lucas Touzard. C'est Julian Draxler qui est visé.
Exactement. Le nouveau coach Jürgen Klinsmann a fait du joueur du PSG une priorité selon nos confrères du Parisien. Le Hertha qui a été racheté par un très riche propriétaire allemand il y a peu. Draxler cette saison, c'est 8 matchs. Il a notamment été blessé au pied. Ça pourrait être pour lui l'opportunité de se montrer dans son pays avant l'Euro qui arrive cet été.
Il faut qu'il y aille.
Mais disons qu'ils ont vraiment de l'argent, parce que pour s'aligner sur le salaire qu'ils doivent percevoir à
Paris... On parle
à Paris,
de 200 millions que voudrait mettre le président pour faire passer l'Hertha Berlin, actuel 12e de Bundesliga, un projet Ligue des Champions, si possible à court terme.
J'entendais même, en regardant le match cet après-midi, ils sont sur Xhaka apparemment, d'Arsenal.
Ils sont sur Xhaka, et donc on l'a dit du Lucas Tuzar aussi.
Franchement, ce ne serait pas une très grosse perte pour le Paris Saint-Germain s'il venait à partir. Alors c'est vrai que tu as besoin de joueurs dans ta rotation, mais il en est au point où il est arrivé avec un statut de... de petite star, starlette. Et au final, il a jamais vraiment confirmé ce qu'il était capable de faire. Moi, je l'avais trouvé intéressant quand il avait évolué un petit peu plus bas. Tu sais, milieu relayeur, alors qu'à la base, il arrivait plus pour jouer dans une ligne, sur un côté, dans une ligne de 3. Écoute, je suis très déçu, d'autant plus que c'est un joueur qui est plein de talent. On l'avait vu notamment
à Wolfsburg.
Non, mais avec la sélection, il a des gros à la confédération. C'était le capitaine, grosse responsabilité. Malheureusement, à Paris, j'ai l'impression qu'il y a un blocage, quelque chose qui lui convient pas. Donc, je pense que c'est mieux pour les deux parties de se séparer. Bon, amis.
Petite question, François. Cette ville de Berlin.
C'est très bien Berlin.
Ouais, c'est très bien Berlin. Gros bassin économique. Est-ce qu'il est temps qu'ils aient une équipe avec un projet Ligue des Champions? On voit ces grandes capitales économiques européennes, on en ont presque tous une.
Oui, mais c'est l'histoire qui dit le contraire. Et depuis presque le début du football allemand, enfin du football pro en Allemagne, Berlin a jamais été une place forte, que ce soit par rapport à Hambourg, par rapport à Munich évidemment, Mönchengladbach, voilà, ils sont absents. Après, oui, ça pourra changer, comme Paris. Ça change maintenant depuis quelques années, mais même Londres, hein, quand on y pense. Il y a quand même une seule Ligue des Champions qui est arrivée dans la capitale d'Angleterre.
Vraiment, quand on parle de club anglais, c'est toujours un paradigme qui est très
c'est
difficile.
C'est Chelsea, oui, sinon il n'y a pas d'autre. Il y a les Coupes des Coupes, il y a les Coupes de l'UEFA, mais il n'y a que Chelsea.
Effectivement, on va faire un petit saut du côté de la Première Ligue. Aurélien Tiercin, c'est terminé entre Liverpool et Leicester.
Une victoire écrasante de Liverpool, 4-0. Firmino à la demi-heure de jeu, et puis après entre la 70e et la 78e, 3 buts coup sur coup. Firmino encore une fois, Milner sort pénalty, Trent Alexander-Arnold. Victoire impériale tout simplement des Reds de Liverpool, jamais inquiété par le deuxième du championnat de Leicester. 4-0 et désormais ça fait 13 points d'avance avec un match en moins. Alors ça n'arrive jamais, mais si Liverpool fait la deuxième partie de saison qu'ils font en première, ils pourraient arriver à un total de 110 points.
Merci beaucoup Aurélien. Salut, on continue Aurélien à s'intéresser au mercato avec un comeback. C'est un moment qu'on en parle, Zlatan Ibrahimovic au Milan AC, ça se rapproche.
Effectivement, on en parle depuis quelques jours, mais ça se précise parce que le Suédois, il pourrait même être à l'entraînement dès lundi à Milan. Il aurait dit oui, il se serait mis d'accord avec le club italien, actuel 11e de Serie A. On parle d'un contrat de 6 mois jusqu'à la fin de la saison avec un salaire de 3 millions d'euros avant éventuellement une prolongation d'un an l'été prochain. Zlatan, messieurs, quel âge ?
38
ans, bien joué. Ça commence quand même à faire pour une carrière de footballeur. Il est libre depuis son départ des Los Angeles Galaxy où il a marqué 53 buts en 58 matchs. Il était passé déjà à Milan de 2010 à 2012.
Direction Montpellier maintenant, où un attaquant pourrait signer dans les prochains jours.
Exactement, il était en direct dans le RMC Football Show cet après-midi. Le président du MHSC, Laurent Nicolin, a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec donc un attaquant, mais pas de nom. Il a précisé qu'il ne s'agissait ni de Moussa Sylla ni d'Anthony Mounier, qu'on annonçait pourquoi pas dans l'Hérault. On sait que Michel Derzac Carignan cherche un attaquant de rupture rapide et dribbleur pour faire souffler notamment son duo infernal Andy Delors-Gaëtan Laborde, donc peut-être une annonce à venir dans les prochains jours.
Et juste, je veux revenir là sur l'annonce de Zlatan, ça pourrait avoir, je pense, des implications pour le PSG. Si Cavani venait vraiment à partir, le Milan se retrouve avec trois avant-centres. Piatek joue plus du tout, on sait que Leonardo l'aime beaucoup. Est-ce que ce serait pas, tu vois, une piste à explorer pour le Paris Saint-Germain pour prendre une doublure à Mauro Icardi?
Pourquoi pas faire un paquet cadeau avec Paqueta.
Parce que c'est sûr que si Cavani s'en va, c'est certain qu'ils vont prendre quelqu'un.
Ah oui, ils prendront quelqu'un, effectivement.
Piatek joue plus, il a pas été aussi performant que ça cette saison, mais ça reste un gros potentiel. Donc je pense que ça serait une recrue idéale pour le PSG. Jeune joueur, un petit peu de choix à relancer, possible stature internationale, intéressant.
Jeu de billard à trois bandes, bien vu. Jonathan, à Strasbourg, les jeunes joueurs pourraient être courtisés et dès cet hiver.
Et oui, parce qu'après un début de saison poussif, les Strasbourgeois ont trouvé leur rythme grâce notamment à ces jeunes qui sont observés de très près par certains clubs européens. On commence par Mohamed Simakan, 19 ans, défenseur central très polyvalent. c'est la révélation strasbourgeoise, alors qu'il sort d'une année blanche. Il s'était fait une blessure, il s'était rompu même les ligaments croisés l'an passé. Sa valeur pourrait aller jusqu'à 15 millions d'euros. Aucun nom n'a filtré, mais des clubs de Ligue 1, de Première Ligue et de Bundesliga seraient intéressés. Un autre joueur qui a prolongé jusqu'en 2023, comme Simacan il y a quelques jours d'ailleurs, c'est Youssouf Fofana, 20 ans. Il dit vouloir confirmer à Strasbourg en Ligue 1, mais les clubs allemands et espagnols seraient intéressés. Et enfin, Ibrahima Sissoko, 22 ans, des clubs anglais, italiens et allemands lui font la cour. On n'oublie pas notamment un autre jeune, Anthony Cassis, qui revient bien. Donc voilà, en cas d'offre conséquente, Strasbourg pourrait lâcher un de ses joueurs.
Messieurs, vous êtes Keller, on vous propose 15 millions pour Simacan. Vous vendez pas Jonathan?
Non, je vends pas parce que je pense que c'est un joueur qui potentiellement tu peux vendre plus cher si tu le laisses progresser dans le cocon avec Thierry Loret.
François?
Oui, je le laisse encore mûrir, mon poulain.
Damien?
Pour 15 millions. J'essaie de réfléchir.
Ouais, non, je le garde jusqu'à la fin. Là, tout de
tu
suite,
peux le vendre plus cher après. Ouais, il est bon, c'est vraiment, il a quelque chose en plus.
Mais il a eu une blessure au genou. C'est souvent une donnée à prendre en compte.
Une chose par rapport à ce que tu disais, Jonathan, sur Cavani, c'est que si Cavani part, il ne dispute plus la Ligue des Champions. Il peut disputer l'Europa League, mais pas la Ligue des Champions. Et ça peut jouer aussi un peu dans sa réflexion.
Je crois que le règlement a changé.
Non, le règlement a changé.
Le règlement a changé maintenant.
Je pense qu'un joueur,
vous êtes sûr, les gars?
Ouais.
Ça va vérifier alors. S'il peut le jouer, non, si, je comprendrais encore plus qu'il
va à l'Atlético, il a le droit.
Ouais. C'est sûr. C'est sûr qu'il peut la jouer.
Alors, il peut vraiment partir.
Oui.
On ajoute à ça qu'a-t-il disputé une minute en phase de groupe?
Il me semble que si.
Il a marqué un but. Galatasaray.
Contre Galatasaray.
Il a marqué un but.
Effectivement.
Mais s'il s'en va, il faudra vraiment se pencher sur la. Moi, je pense que s'il s'en va, Leonardo a déjà la solution dans ses bagages.
Dernière information transfert avec Andrés Iniesta, convoité par un club argentin.
Et oui, le club d'Estudiantes de La Plata tente de convaincre Iniesta, 35 ans, de signer, le champion du monde 2010 qui évolue en ce moment au Vissel Kobe au Japon. Mais peut-être va-t-il rejoindre donc Javier Mascherano qui a déjà signé dans ce même club argentin en novembre.
D'autant que c'est la trêve au Japon et la trêve en Amérique du Sud.
Et c'est le club de Juan Sebastián Verón.
Jonathan, ça te ferait rêver?
Ah bah ouais, quand même. Ça aurait de la gueule, hein. Ça aurait de la gueule. Et puis ça ferait un nom de plus dans un championnat qui en a bien besoin. Après,
c'est le tournoi d'ouverture après qui s'enchaîne?
Non, c'est plus comme ça, hein. Il y a plus d'ouverture.
Ils sont combien? Ils sont 30-32.
Un championnat à plus de 30 équipes, c'est un peu n'importe quoi. C'est très difficile à suivre.
Ils sont 32 en division.
Et je vais vous donner, tiens, parce qu'on parle de ça, des nouvelles. Daniele De Rossi, ça se passe pas si bien que ça à Boca Juniors. Hein.
Ah ouais.
Franchement, c'est pas folichon. Un petit peu, ouais. Un petit peu.
Puis c'est un contexte spécial à gérer, Boca aussi.
Ouais, il avait bien commencé, mais là, très franchement, c'est plus du tout ça, quoi.
Merci beaucoup, Valentin, pour toutes ces informations.
Bonne soirée,
merci
messieurs.
À tous. On revient à nous dans quelques instants pour vous parler de Première Ligue. On vous rappelle l'information de la soirée, c'est la victoire de Liverpool 4-0 sur la pelouse de Leicester. Liverpool a désormais 13 points d'avance sur le second de Première Ligue. Ils n'ont pas gagné la Première Ligue depuis 30 ans, mais semblent en prendre la voie sans aucun problème. On va parler de tout ça avec Julien Laurence, avec Aurélien Tirsin qui a commenté cette rencontre. Et puis, on jouera ensemble à 23h40 par là. Le quiz de l'after, on revient dans quelques secondes.
RMC, 21h minuit.
L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.